En Seine-Saint-Denis, la prévalence du diabète est de plus de 8%, une fois et demi le niveau national. Pour l'obésité, on est à 20%, c'est 3 points au-dessus de la moyenne nationale. Donc non seulement on est infecté plus facilement par le virus, mais dès lors qu'on est infecté, on a plus de chances de faire une forme grave.
Département le plus jeune mais aussi le plus pauvre de France métropolitaine, la Seine-Saint-Denis a été l'un des plus touchés par le Covid-19. La pandémie a mis en évidence tout ce que dénonçaient élus et médecins depuis des années. Malgré la proximité de Paris, certains quartiers du 9-3 s'apparentent à des déserts médicaux. La mortalité du mois de mars 2020, au début de la crise, a augmenté de 61% par rapport à mars 2019. Et à cette époque, quand 1 million de franciliens quittaient la région, les séquano-dionysiens, pour qui le télétravail est majoritairement une chimère, continuaient à prendre les transports en commun, à s'entasser dans des appartements où l'isolement des malades est impossible et à faire leurs courses quotidiennement, faute d'avoir les moyens d'acheter et stocker de grandes quantités de marchandises.
Donc c'est ici que vous vivez?
Oui.
Ça fait combien de mètres carrés?
Ça fait 27 mètres carrés.
27 mètres carrés, oui. Une chambre pour 5 personnes?
Oui.
Un couple et 3 enfants?
Oui. 5 ans, 8 ans et 10 mois.
Pourtant, sur cette toile de fond économique et sanitaire plutôt sombre, les taches de lumière sont nombreuses. La solidarité des habitants est une réalité qui s'appuie sur un très riche et très dense tissu associatif. Il ne s'agit pas seulement d'associations caritatives. Le Red Star, par exemple, est une institution locale. Fondé en 1897, 5 fois victorieux de la Coupe de France de foot, le club de Saint-Ouen fait partie du paysage. Depuis longtemps, il accompagne les jeunes du secteur dans leur formation sportive, mais aussi humaine. Agera Mohamed s'invite chez un très jeune joueur du club à l'heure du déjeuner.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Oui, allô.
Oui, bonjour Stéphane, c'est Agera Mohamed.
Oui, oui, oui.
Je suis arrivée, alors il faut un code pour entrer. Et c'est à quel étage ensuite? C'est quel immeuble? Parce qu'il y a plusieurs immeubles. Hein.
Quand vous rentrez, c'est à droite. Attendez.
Il arrive, je pense qu'il vient nous chercher.
Nous sommes au Lila, dans le quartier Floréal, en Seine-Saint-Denis, à 10 km du centre de Paris. Et on a rendez-vous avec la famille Collin.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes Stéphane?
C'est ça.
Le papa.
Le papa de
moi. Enchanté.
Comme beaucoup de familles en Seine-Saint-Denis, celle de Stéphane a vécu une année difficile. Ils ont accepté de nous la raconter.
On peut serrer la main,
ouais,
check du coude.
Check de quelque chose.
Vous êtes la maman?
Oui.
Vous vous appelez comment?
Cindy.
Cindy, enchantée. Et toi, c'est Noan?
Noan, oui.
Enchantée, on se fait un check du poing. Noan, t'as quel âge?
12 ans.
Bon, on débarque en plein déjeuner, en plein repas de midi. Bon appétit.
Merci.
Merci.
Noan, je commence par toi.
D'accord.
Toi, t'es en 6e, c'est ça?
Oui, je suis en 6e.
Et elle était comment cette année?
Bizarre. De travailler alors qu'on était à la maison et de rendre les devoirs.
C'était difficile?
Oui, parce que comme on était, j'allais jouer dehors, je m'amusais, je regardais pas forcément le site. Est-ce que j'avais des devoirs ou pas?
Fallait s'accrocher un petit peu.
Oui.
Et vous, la maman, ça vous a inquiété cette année sur le plan scolaire pour votre enfant?
Alors sur le plan scolaire, ça m'a pas inquiété, mais ça m'a obligée à me réorganiser, puisque moi aussi, j'étais en formation en distanciel. Donc il fallait vraiment qu'on trouve chacun son temps pour travailler, son moment pour pouvoir répondre à ses attentes, mais on a réussi.
Ton papa, il m'a dit aussi que c'était le foot. Ça t'avait manqué alors que t'as continué à en faire, non, du foot?
Oui, mais plus de la même façon, parce qu'on en faisait moins. On faisait plus de matchs, plus de tournois. Avant, on allait avoir 5 entraînements. Là, on allait en avoir 1 ou 2 par semaine, donc c'était pas pareil.
Ça te fait quoi de jouer au foot? Qu'est-ce que ça t'apporte?
Du plaisir. De voir les copains, de jouer avec les copains, de dribbler les copains, d'inviter les copains, tout ça, c'est drôle. C'était plus ça, de voir quasiment personne.
T'es au Red Star, hein?
Oui.
Qui est le club de Saint-Ouen, club mythique du 93, on peut le dire.
Oui.
Tu joues à quel poste?
Milieu de terrain.
Vous, Stéphane, vous êtes agent hospitalier. Vous faites quoi précisément?
Je suis agent de chambre mortuaire.
À l'hôpital de Saint-Denis, c'est ça?
À l'hôpital de Saint-Denis, à De La Fontaine. Oui.
Donc vous travaillez à la morgue?
À la chambre mortuaire, oui, effectivement. Comment? Qui est appelée morgue aussi, selon certains, mais c'est la même chose.
Donc vous étiez en première ligne, vous faites partie de ces travailleurs dont on a beaucoup parlé, qui ne se sont jamais arrêtés.
Oui, je pense que première ligne, c'est le bon terme. Et j'ai jamais eu l'occasion, moi, d'être à domicile. J'ai toujours travaillé, ça ne s'est jamais arrêté, donc oui.
Vous étiez aux premières loges, on peut le dire comme ça, pour voir à quel point cette pandémie, elle frappait la Seine-Saint-Denis.
Oui, qu'on doit commencer à faire appel à des moyens extérieurs pour pouvoir stocker les défunts. C'est-à-dire là, en l'occurrence, des camions frigorifiques ou des conteneurs, ça dépendait des lieux. Quand nous, on n'a même plus la capacité de pouvoir accueillir nos propres défunts, on commence à se rendre compte qu'il y a un problème. Quand on fait appel à un deuxième camion, là, on est obligé d'admettre qu'on est face à quelque chose qu'on n'avait pas vu venir. Malheureusement, on avait l'impression d'être devenus, excusez-moi du terme, mais des manutentionnaires de défunts. Et on avait plus ce qui fait la grande partie de notre boulot, c'est ce côté social et ce rapport aux autres, qui humanise quand même ce travail, même si c'est humain de s'occuper des défunts, mais devoir conseiller la famille, être un support, être un conseil, c'est quand même ce qui fait l'intérêt de notre travail. Et c'était assez lourd, oui.
Est-ce que vous avez eu peur, en travaillant à l'hôpital, de ramener le virus chez vous ?
Bien sûr, obligatoirement. Je pense que j'ai jamais autant pris ma température que dans cette période. Tout le monde est à la maison, donc si c'est moi qui le ramène, et que les gens l'attrapent et qu'il leur arrive quelque chose, je serai le responsable.
Et les travailleurs en première ligne, on a beaucoup parlé de vous, on vous a rendu hommage.
On a beaucoup parlé des infirmiers et des médecins. Point. Pas trop les autres parties de l'hôpital. Non, nous, on ne peut pas dire qu'on a été mis en avant.
Il y a quand même eu aussi des primes pour justement tous ces travailleurs mobilisés pendant cette crise sanitaire. Est-ce que je peux vous demander si vous en avez eu une? Et si oui, est-ce que cette reconnaissance financière, ça compte?
Alors, on l'a eu, oui. On a été mis dans la boucle par notre cadre. Parce que logiquement, on n'aurait pas dû être dedans puisqu'on ne fait pas partie du corps soignant. Vous voyez, c'est pour vous dire. Après, l'hôpital a accepté immédiatement de nous la verser. Ça n'a pas posé de problème là-dessus. L'hôpital était tout à fait conscient. En traitement interne, ça a été très bien. Mais normalement, vous voyez, dans la logique, on n'aurait pas fait partie de cette... C'est pour vous dire que notre corps de métier ne fait pas partie de ceux qui ont été valorisés. Vous voyez. Bon, c'est parti.
Faut filer, c'est ça, Noan ?
Je vais à l'entraînement.
On peut venir avec toi ?
Si vous voulez.
Ok, on vous attend là-bas. Écoute, pour marquer un but, on doit passer dans une des deux portes. Donc les rouges, Mohamed, vous devez passer soit dans cette porte, soit dans celle là-bas. Les verts, soit dans celle-ci, soit dans celle là-bas. On démarre avec les verts. C'est parti, ça joue Ulysse.
Ouais, Ulysse. T'inquiète. Seul. Intérieur. Ouais, Joe. Ouais, Adil. Ouais, Max, Max. Ulysse! Ça arrive!
Ok, 2-0 pour les verts.
Ouais, et revenez là après.
Bon alors Noël, l'entraînement il est terminé, tu restes quand même là pour voir le match?
Oui, je vais rester regarder le match des U14.
Avec les copains, il y a qui là? Tu t'appelles comment toi?
Ali. Abel.
Mohamed.
Mohamed.
Oui.
Qu'est-ce que ça fait là de reprendre régulièrement le foot?
Bah ça nous fait du bien et je pense que ça nous permet au moins de faire une activité sportive. C'est pas que les cours, les devoirs et après rester devant la télé. Là au moins ça nous fait une activité pour se divertir.
Les cours c'est pas toute la journée, il faut alterner entre l'activité sportive et l'école.
Bah après ici c'est comme une deuxième famille aussi, c'est pas qu'un club normal comme tous les autres. Ici on vit, on partage des moments ensemble.
Là vous espérez que ça y est c'est fini, la pandémie?
Oui, comme ça au moins on pourra reprendre l'école normalement, le foot normalement, reprendre les tournois, recommencer les vrais matchs.
Reprendre la vie quoi en gros.
Oui.
Voilà.
Bien joué Manuel, bien joué Manu.
lâchez pas Red Star, lâchez pas Red Star.
Allez.
Non, la
buse.
L'entraînement est terminé, alors on va traverser la rue et aller juste en face à l'Olympique. L'Olympique, c'est le bar historique des supporters du Red Star. Et aujourd'hui, pour les patrons, c'est un grand jour puisque ça y est, ils rouvrent enfin aux clients après plusieurs mois de fermeture. C'est vous les patrons ?
Ouais, deux patrons.
Akli.
Akli et le fils Yacine.
Yacine, on peut pas se tromper ici, on est dans un bar de supporters. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu la déco ?
C'est que des autocollants sur le Red Star et sur la vie du Red Star.
Les écharpes de supporters.
Les écharpes, les posters. Il y a aussi les classements juste là. Vous avez toute la panoplie du Red Star depuis de nombreuses années.
Alors Akli, est-ce que les clients sont de retour pour ce premier jour ?
Moyennement. Peut-être d'ici tout à l'heure, ce soir, peut-être ça sera mieux. Hein ? Mais autrement, jusque-là, c'est moyennement.
En même temps, vous dépendez beaucoup des supporters du Red Star.
Tout à fait.
Les jours de match, donc.
Exactement.
Et ça a été une saison compliquée, avec des matchs à huis clos.
Très compliqué. Aucun supporter, donc très très peu de clients pour nous, effectivement.
Et donc financièrement, aujourd'hui, vous en êtes où ? Est-ce que vous êtes dans le rouge ?
Dans le rouge, non. Mais comme on est millionnaire, c'est non plus.
Vous n'êtes pas millionnaire, non ?
Voilà. On n'est pas millionnaire, on n'est pas en rouge.
On arrive à se maintenir. Tout ça grâce aux aides de l'État, donc au chômage partiel, aux aides de l'État.
Et est-ce que finalement le plus difficile, au-delà de l'aspect financier, c'est pas aussi ce lien social que vous avez perdu avec les supporters, avec les gens du quartier ?
Si, tout à fait. Le Red Star ne va pas sans l'Olympique. L'Olympique ne va pas sans le Red Star.
Oui, c'est un bar qui est quand même un monument historique, quoi.
Donc oui, c'était assez dur pour tout le monde, pour tous les habitués, pour tous les gens du quartier et pour nous-mêmes. Quand vous voyez l'Olympique avec les rideaux fermés, ça fait pas plaisir quoi quand vous passez juste à côté.
Justement, le quartier, pour ceux qui connaissent pas, il est comment en temps normal, hors Covid ?
Bah déjà très cosmopolite, très vivant, très joyeux. C'est pas ce qu'on entend dans les informations quand on parle de Saint-Ouen, mais en réalité, quand on vit ici, très agréable.
Et donc cette joie, elle a un peu disparu, même beaucoup pendant cette crise ?
C'est estompé, ouais. Disparu, c'est le mot. Comme je vous ai dit, le Red Star, c'est à peu près la seule attraction du quartier. Donc oui, si c'est fermé, il n'y a plus trop de joie, il n'y a plus trop de vie. Quoi.
Parmi les clients de retour ce jour-là à l'Olympique, il y a Nabil, un vrai supporter du Red Star. Il est en train de boire son café dans la salle.
En fait, c'est un lieu mythique d'avant-match. On y va avec les copains, copines, on se retrouve justement à l'Olympique. Le point de départ avant de rentrer dans les tribunes du stade si magique pour moi. Et en fait, finalement, même les tribunes ne sont pas très grandes. Donc si on rentre un peu plus tôt dans les tribunes, on peut se retrouver à un moment donné du match.
Et donc tout ça, ça a disparu pendant plusieurs mois. L'Olympique est resté fermé. Match à huis clos, ça vous a manqué ?
Complètement. Bah, le lien social, déjà, il se crée dans la ville parce que c'est souvent un vendredi sur deux où il y a des matchs à Bauer. Et d'ailleurs, même si pour certains voisins qui oublient qu'il y a un match, il y a des indices très simples à identifier. C'est qu'on voit des gamins avec des t-shirts du Red Star, on voit des familles traverser en fait cette rue du Dr Bauer. Et souvent, on retrouve un peu les mêmes personnes. C'est-à-dire que ça se trouve, on a un voisin d'immeuble qu'on n'a pas vu pendant deux semaines et on est sûr de le retrouver dans ses tribunes le jour J du match. Là, bah, la vie professionnelle reprend, tout le monde travaille. On se salue de loin, mais il n'y a pas cet échange qu'on avait dans les tribunes parce qu'on se posait et en même temps, on parlait de tout et de rien et on regardait notre match.
« On quitte l'Olympique, on quitte Saint-Ouen et on franchit le périph pour aller à Paris où nous attend Yvan Gastaud. Il est historien du sport et il va nous expliquer en quoi les clubs de sport ont un rôle social important, même en temps de crise. Bonjour Monsieur Gastaud.
Je suis en retard, bonjour.
Il n'y a pas de problème.
On va rentrer là, c'est parce que j'ai une réunion après.
On vous suit.
On y va.
Yvan Gastaud, en Seine-Saint-Denis, on est aussi dans un département où le sport, où le football notamment, est très pratiqué par les jeunes, parce qu'on est dans un département très populaire, et le foot, par essence, c'est le sport sans doute le plus populaire qu'on connaît aujourd'hui. Quand les entraînements s'arrêtent, quand des matchs sont annulés pour les plus jeunes, ça a quelles conséquences d'un point de vue social? Ça s'est vu ailleurs, à un autre moment de l'histoire?
Il y a un côté effectivement tout à fait exceptionnel, on pourrait dire, hein, de cet arrêt. Quand vous êtes un jeune de 14 ans, il y a une chose qui vous mobilise, c'est le match du samedi ou du dimanche. S'il n'y a pas ce match, même si vous entraînez, vous continuez à pratiquer le sport, il vous manque quelque chose. Et quel que niveau qu'on soit, de très haut niveau ou d'un niveau plus bas, ne pas avoir ces compétitions, c'est un manque évident. Pour les jeunes générations, c'est tout à fait exceptionnel. Aucune jeune génération depuis la guerre n'a été privée de cette possibilité de jouer au sens de la compétition. Et donc oui, il me semble que le département de Seine-Saint-Denis, sans doute, a été plongé dans une forme de désarroi, hein, face à cette absence de compétition. Alors désarroi de ceux qui pratiquent, hein, les adultes compris, mais désarroi aussi des éducateurs, désarroi aussi de ceux qui sont obligés de maintenir des entraînements sans finalité. Enfin, le sport, le football, peut-être certains ne seront pas d'accord avec ça, mais il y a quand même une fin en soi, c'est de s'affronter, de jouer, d'être dans la compétition. Hein. Le compétiteur, le footballeur, il veut affronter d'autres équipes et pas simplement s'affronter à l'entraînement. Donc, il me semble que socialement, ça a sans doute eu des conséquences sur une forme, voilà, de repli, de morosité, de désarroi, voire de mélancolie. Hein.
Est-ce que finalement, on revient à l'essence même du foot populaire? On a beaucoup entendu parler ces dernières semaines de ce projet de Super League où il y avait ces grands clubs de foot prestigieux qui ont voulu monter leur propre compétition pour gagner plus, disons-le. Ça a fait pchit. Est-ce que, s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire, ce projet aurait pu naître?
Et alors, il y a effectivement l'antithèse de la Super League, c'est peut-être le Red Star, en tout cas la pratique du football vue par le Red Star, c'est-à-dire la possibilité de donner une autre facette du football. Hein, et face à la pandémie, on a eu, finalement, voilà, on pourrait faire une comparaison entre ces deux types d'attitudes, si on peut dire. D'un côté, le super haut niveau qui serait un entre-soi de quelques clubs milliardaires qui voudraient perpétuer leur présence au plus haut niveau sans aucun contrepoids. C'est peut-être effectivement une des conséquences de la pandémie, hein, que de trahir en quelque sorte les idéaux sportifs, et à l'autre bout de la chaîne, hein, on pourrait dire, des clubs qui bataillent au quotidien sur le terrain, sur le territoire, en l'occurrence par exemple en Seine-Saint-Denis, et qui s'emploient justement à proposer autre chose à travers le football, qui serait vraiment l'antithèse de cette Super League, c'est-à-dire un sport pour tous, un football qui serait, si on prend le cas du football, ouvert à toutes et à tous, qui aurait cette fonction sociale des clubs, la capacité éducative, la fabrique du citoyen, hein, et je pense que s'il n'y a pas cette dimension-là, effectivement, le football perdrait complètement de son intérêt.
Interception sur France Inter.
Le sport est bien un facteur de cohésion sociale, au même titre qu'un accès égalitaire à la santé. Or, sur le plan sanitaire, la Seine-Saint-Denis est à la traîne par rapport aux autres départements français. On y compte 2 lits d'hospitalisation pour 100 000 habitants. La moyenne en Ile-de-France est de 3,3 lits, elle est de 7,7 lits à Paris. Toujours pour 100 000 habitants, le département abrite 120 généralistes contre une moyenne de 154 dans l'Hexagone. C'est chez l'un d'entre eux, le docteur Partouche, qu'on retrouve à Gérard Mohamed.
Bonjour.
Bonjour.
Asseyez-vous.
Donc, dernière fois qu'on s'est vu, c'était le 19 mai. Deuxième dose d'AstraZeneca.
Exactement.
Ça s'est bien passé?
Très très bien, très très bien. Première,
pas
deuxième dose.
Aucun
effet secondaire.
Pas de fièvre?
Un tout petit peu de froideur, de frétissement, mais
d'accord.
Rien. Première et deuxième dose.
Très bien. Je vois que vous mettez bien votre masque. Hein.
Tout le temps, masque, gel, tout, de voiture. Moi, je préfère même. Ouais. En plus, avec le nouveau déviant qu'il y a, On ne peut pas savoir, donc...
Pour vous, c'est un déviant, c'est pas un variant.
Ouais, c'est un
déviant, ça dévie. Ça dévie, voilà. Hein, voilà. On n'est plus dans la norme.
On a commencé par, un virus anglais. Maintenant, on ne dit plus indien, on dit delta. Ouais. On ne sait pas quand ça va s'arrêter. Mais moi, je pense que plus il y aura la vaccination, mieux ce sera.
Docteur Henri Partouche, d'un point de vue médical, comment vous expliquez qu'il y a eu plus de transmission de ce virus dans ce département et plus de morts à cause du Covid en Seine-Saint-Denis ?
Alors, pour la transmission, on pourrait supposer que la densité de population au mètre carré est plus élevée. Donc, une promiscuité dans les transports, des logements plus petits avec des familles entières mêlant des jeunes et des personnes moins jeunes, plus à risque de faire un Covid grave, fait qu'il y a plus de transmission. Pour la mortalité, ça peut être expliqué par les facteurs de risque de mortalité. Le diabète, l'hypertension, l'obésité, les cancers, la cirrhose et autres.
Des maladies qui sont plus répandues ici dans le 93 ?
Oui, clairement. En Seine-Saint-Denis, la prévalence du diabète est de plus de 8%, une fois et demie le niveau national. Pour l'obésité, on est à 20%, c'est 3 points au-dessus de la moyenne nationale. Quand on est pauvre, on n'achète pas du poisson, des légumes, et on n'a pas une alimentation diversifiée. On mange des pâtes, des sucreries, on déclenche une obésité. Donc non seulement on est infecté plus facilement par le virus, mais dès lors qu'on est infecté, on a plus de chances de faire une forme grave. J'ai le souvenir d'une patiente qui était obèse et qui est décédée pas très longtemps. Elle aurait pu être vaccinée avant, elle n'a pas été vaccinée.
Et justement, la vaccination aussi, on est dans un département où le taux de vaccination reste assez faible. Comment vous l'expliquez, ça aussi ?
C'est un problème de hiérarchisation. Ce qui passe avant, c'est les problèmes de logement, les problèmes de fin de mois. Bien après, cette notion qui est plus intégrée en haut de la hiérarchie sociale, qui est celle du capital santé. On va tout faire pour vivre le plus longtemps en meilleure santé. Et là, on sent qu'on s'en remet un peu au destin et que l'immédiat, c'est comment on va payer le loyer à la fin du mois, etc., etc.
Les pouvoirs publics, l'Agence régionale de santé ont vite compris qu'il y avait un problème vraiment dans le 93, qu'il fallait aller chercher les gens chez eux pour les faire vacciner, pour le dépistage. Donc, il y a eu des opérations menées vraiment en bas des immeubles. Et finalement, même avec ça, il y a encore du boulot à faire. Les gens ne sont pas forcément descendus de leur immeuble pour se faire vacciner, pour se faire dépister. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire en plus ?
On sait que les meilleurs systèmes de santé et les résultats en santé sont d'autant plus efficaces que les soins primaires sont de bonne qualité. En Seine-Saint-Denis, on a une démographie médicale très basse et on œuvre pour recruter des médecins, mais c'est trop lent. Ce qu'on peut développer, ce qui a été fait au niveau de notre municipalité, de créer des zones dans les quartiers où on pouvait se vacciner sans rendez-vous. Et cette notion de rendez-vous est importante parce que elle est discriminante. Je me souviens les premiers jours du centre de vaccination de la salle Barbara à Saint-Ouen. Je vaccinais, c'était pas des gens de Saint-Ouen, c'était des gens de Neuilly, d'Asnières, du 16e, qui venaient parce que ce sont des personnes qui avaient pris rendez-vous sur Doctolib bien avant la population de Saint-Ouen qui n'était pas au courant.
La salle Barbara dont nous parle le docteur Partouche, c'est une salle des fêtes municipales à Saint-Ouen, transformée depuis janvier en centre de vaccination. Il faut grimper à l'étage où sont installées les box. Et justement, Daniel reçoit son injection.
Alors, je vous imprime l'attestation. Et puis, on va passer à la vaccination.
Oh, vous n'êtes pas gentil. Hein.
Relâchez le bras, s'il vous plaît. C'est parfait. C'est fini.
Merci.
Merci à vous. Donc, ça y est, vous aussi ?
Oui, ça y est, j'ai fait.
Première ou deuxième
injection ? Deuxième.
Pourquoi c'est important pour vous, madame, d'être vaccinée ?
Bah, c'était pas important, hein. C'est à cause de mes enfants qui m'ont forcé à y aller. Hein. Autrement, moi, je voulais pas le faire.
Ah bon, pourquoi ?
Je sais pas. Ça m'attirait pas.
Vous avez pas confiance ?
Pas confiance du tout, même. Mais enfin, ils m'ont tellement vacciné que j'étais obligée de le faire.
Vous vous appelez comment ?
André.
Et je peux vous demander, vous avez quel âge ?
81. Bah, je suis née en 1939. Je suis une vieille peau maintenant.
Je pensais que tu en avais dans les 75, 78. Ah, non.
81.
Ah oui, t'es vieille.
Ouais.
J'imagine que vous connaissez, vous êtes voisine.
Ah bah oui, c'est ma pote, c'est ma copine. Moi, je me place un peu. Hein. Il y a une bonne ambiance. Et l'ambiance.
Mais
moi,
qu'est-ce qui était le plus dur pendant cette crise?
Bah, c'est surtout qu'il n'y avait plus de resto, il n'y avait plus de café. À chaque fois que j'allais au marché faire les courses, je rentrais toujours dans un petit café. C'était bien, on discutait. C'était... Ah oui, ça me manque par contre. Hein.
Un bon petit resto aussi.
Hein. Ah ouais, le resto, oui, voilà, je fonce, hein, je vais au chinois. Moi, c'est un chinois.
Je vous prépare tes sous parce que bientôt on va voir le resto.
Ah ouais, ouais.
On va y aller.
Ben on y va.
Ben merci beaucoup, mesdames.
Ben je vous en prie. Madame, venez. 13h10.
Merci.
Sur le plan éducatif aussi, le département a plus souffert que les autres. Un quart du parc immobilier est surpeuplé. Difficile de s'isoler pour suivre un cours à distance ou pour travailler sur le seul ordinateur du foyer quand il y en a un. Avec des parents parfois non francophones, souvent absents parce que continuant à travailler à l'extérieur, les difficultés se sont accumulées pour de nombreux jeunes.
Bonjour. Enchanté, Steve Laranaga.
D'où l'inquiétude des enseignants comme Steve Laranaga, que rencontre Ajera Mohamed.
En principe, en tant qu'enseignant, on n'a pas vraiment de bureau. Hein.
Il est prof dans un lycée technique et par ailleurs élu de Saint-Ouen.
Steve Laranaga, si vous deviez résumer ces deux dernières années scolaires, on va dire, sur le plan justement scolaire, en tant que professeur, en un mot, ce serait lequel ?
Exceptionnel. Exceptionnel parce que on n'avait jamais vu ça avant. Moi, ça fait plus de 15 ans que je suis enseignant. Et c'est vrai qu'on a été très surpris. En fait, on n'a pas eu de temps de préparation. Le vendredi, on nous a annoncé un confinement et les cours à distance commençaient le lundi. Avec quand même beaucoup de freins et de difficultés, en tout cas au début.
Vous enseignez les sciences médico et sociales, c'est ça, à des élèves qui ont quel âge?
Alors mes élèves, ils ont entre 16 et 19 ans.
Et ça s'est passé comment pour eux? Est-ce que certains ont décroché?
Alors tout dépend de ce qu'on appelle décrocher. Sur la partie, bien sûr, de mars 2020 jusqu'à la fin de l'année scolaire, on était vraiment en cours en distance. Là, on avait pratiquement la moitié des élèves qui étaient absents. C'est-à-dire qu'on ne les voyait pas, ils n'étaient pas présents. Maintenant, on était en lien avec le proviseur du lycée, qui, lui, avait des statistiques sur le logiciel vie scolaire, qui nous disait, lui, sur l'ensemble du lycée, qu'on avait à peu près 80% des élèves qui s'étaient connectés au moins une fois au logiciel. Ça veut dire qu'ils se sont connectés au moins une fois pour regarder. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils ont travaillé? Est-ce que ça veut dire qu'ils ont rendu des travaux? Moi, je vous dis, en réalité, au niveau du suivi des cours et des travaux rendus, on était à maximum 50% des élèves qui suivaient vraiment. Et les autres étaient plus dans une voie de décrochage pour moi. Beaucoup d'élèves, en fait, n'ont pas réussi à s'adapter à ces modalités d'enseignement parce qu'en fait, ce ne sont pas des modalités en fait, qui leur conviennent. Les élèves que j'ai en voie technologique notamment sont des élèves qui ont plus l'habitude de réaliser les travaux en cours avec un enseignant parce que quelquefois, il y a aussi au niveau de l'estime de soi, c'est à travailler. Donc, ils ont besoin aussi d'un soutien. Il y a aussi des travaux de groupe. Nous, en voie technologique, on travaille beaucoup en groupe. Comment on fait pour travailler en groupe si les élèves ne sont pas présents physiquement? On sait très bien que leurs conditions de vie à la maison, ce sont des conditions en fait où ils n'ont pas la possibilité forcément de travailler de manière convenable. Il fallait se connecter sur le site vie scolaire, etc. pour avoir le travail. Ils avaient des problèmes de connexion. Ensuite, il faut essayer de se mettre dans un endroit où on puisse se concentrer pour faire le travail. Ce qui n'est pas le cas d'une majorité de nos élèves. Alors, en Seine-Saint-Denis, effectivement, on a beaucoup de logements qui ne correspondent pas à la taille des familles. On a beaucoup de suroccupation. Pour la vie de tous les jours, ça peut passer parce qu'on sort, on va dans la bibliothèque, on le fait à l'école même, quelquefois au CDI. Sauf que là, surtout dans la première période du confinement, de mars 2020 jusqu'à la fin de l'année, c'était relativement complexe pour eux, voire très complexe, pour faire le travail.
Pour aider les jeunes à surmonter leurs difficultés scolaires pendant cette crise, beaucoup d'associations de quartier se sont mobilisées, comme l'AP, l'association des parents engagés pour les enfants, présidée par Nadia. C'est la dernière séance de soutien scolaire et on arrive à l'heure du goûter.
Bonjour, entrez, je vous en prie.
Bon, j'ai ramené les munitions, le goûter.
Oui, oui.
Vous avez passé une bonne journée ?
Les enfants de la classe, ça a posé une question.
Vous avez passé une bonne journée ?
Oui.
C'était bien hier, le sport, hein ?
Oui.
Ah, oui. Ah, hop, c'est parti. Bienvenue. Hein. Alors, c'est vous, Nadia ?
Oui.
La présidente de l'association.
Oui,
de
enchantée. Oui.
C'est un peu la course, ça ? C'est pas un craqué ?
Oui, bah alors moi je sors du travail, les bénévoles ont ouvert le local, et puis c'est la ruche.
Parce qu'il y avait une véritable demande de la part des parents qui se sont retrouvés quoi, désemparés quand il y a eu l'école à la maison à faire ?
Oui, beaucoup de parents qui ne peuvent pas soutenir leurs enfants dans leur travail scolaire. On a beaucoup aussi de parents non francophones. Et on avait déjà pas mal de gamins depuis une dizaine d'années. Hein. On fait de l'accompagnement scolaire, de l'accès à la culture et au sport. Et l'accompagnement scolaire a été... c'est ce qui nous a le plus perturbé quand il y a eu le premier confinement. Parce que là, les parents se sont retrouvés désemparés. Et les mamans, souvent, nous appelaient pour nous demander de l'aide. Pour elles, l'arrêt brutal de l'école, c'était une vraie catastrophe.
Et sur les programmes scolaires, vous disiez, il y a beaucoup de familles non francophones, donc qui n'ont pas reçu une éducation ici en France. Donc c'est compliqué pour eux de les aider sur des programmes d'histoire, de français peut-être, absolument, de littérature, c'est
ils
ça
ils ne sont pas équipés parfois en informatique pour pouvoir faire les recherches. Ils ne sont pas du tout francophones, certains. Et en plus, quand vous avez 4 ou 5 enfants à la maison à vous occuper... La priorité, c'est de préparer le repas, c'est de veiller à l'enfant, c'est de ranger la maison. C'était vraiment très, très compliqué.
Et donc ici, alors il y a des enfants qui font du soutien scolaire, mais j'en vois aussi jouer à des jeux de société. Ils viennent prendre leur goûter.
Oui.
Vous faites plein de choses, en fait, pour eux.
En fait, ils sortent de l'école, ils viennent ici, ils prennent le goûter. On fait une vraie pause de 15 minutes. Et ensuite, ils se mettent au travail, ils font les devoirs. Une fois qu'ils ont terminé les devoirs, ils jouent aux jeux de société, ils prennent un livre, parce que parfois, c'est le seul endroit où les enfants découvrent la lecture.
Est-ce qu'il y a des enfants, des élèves que vous suiviez avant cette crise sanitaire, et là, aujourd'hui, ils continuent à venir, et vous avez remarqué une baisse de niveau, une baisse des notes ?
Évidemment, il y a eu un décrochage. Suivant l'âge, les dégâts sont moins lourds. Par exemple, ce qui nous a beaucoup touchés, et on a dû continuer ça, on a insisté, on a pu faire des ateliers lecture à distance avec les CP, parce que la lecture, c'est très important au CP. Ça va déterminer une grande partie de la scolarité des enfants. S'ils ne savent pas lire, ils ne pourront pas comprendre les énoncés, ne pourront même pas les lire. Et donc pour nous, la priorité, c'était les élèves de CP et tous ceux qui passaient le brevet ou le bac.
On va aller voir un élève, voir... Comment ça s'est passé pour lui ? Bonjour.
Bonjour.
Tu t'appelles comment ?
Lina.
Et t'as quel âge ? T'es en quelle classe ?
J'ai 11 ans et je suis en CM2.
Comment ça s'est passé, toi, l'école à la maison ? Tu sais, notamment quand tu pouvais plus du tout aller à l'école en mars 2020. C'était difficile ?
Oui, parce qu'on se démotivait très rapidement. Souvent, on se sentait seul. Du coup, on croyait qu'on était seul à faire nos devoirs et on était tous isolés. Et c'était très motivateur parce qu'il y avait toujours une envie d'aller se reposer ou d'aller jouer ou enfin de faire quelque chose qu'on préfère faire.
C'était dur de se concentrer.
Oui, c'est dur tout ça.
Et à la maison, tes parents, ils ont pu t'aider ou c'était difficile pour eux aussi de t'aider à faire les devoirs ?
Non, moi j'ai eu la chance que mes parents, ils ont pu m'aider. Mais moi, je m'en sors bien à l'école, du coup, je peux... C'était surtout pour me concentrer que c'était compliqué. Mais après, du coup, on a dû tout rattraper et c'était compliqué de rattraper.
Avec quoi ?
Avec le maître, on a dû rattraper tout ce qu'on n'a pas pu apprendre l'année dernière.
Par exemple ?
Les fractions, on ne les avait pas encore faites, du coup, on les a fait en CM2. Du coup, ça a ralenti le programme aussi de CM2 et là, en géométrie. Et on n'a pas eu le temps de tout faire.
Les petits devant et les grands derrière, comme d'habitude.
Pour marquer cette fin d'année scolaire, les enfants et les bénévoles de l'association ont décidé d'improviser une photo de groupe, une photo de classe, en quelque sorte, et j'ai accepté de jouer la photographe.
Pour la photo à trois. Un, deux, trois.
Oui !
Interception sur France Inter.
Alors là, on a quitté la séance d'aide aux devoirs et on rentre avec une maman et ses enfants. On va chez elle, bonjour.
Bonjour.
Vous appelez comment ?
Belassal Siham.
Siham. Et on vous suit chez vous parce que vous vivez dans un tout petit appartement, c'est ça ?
Oui.
À plusieurs et c'était compliqué.
Oui.
Vous allez nous raconter ça. Là, on accélère un peu parce qu'il pleut. Au fond de la cour. C'est un vieux bâtiment.
Oui.
Avec les câbles électriques là qui sont apparents dans l'entrée.
C'est les toilettes de mes voisines.
Ah, vous avez les toiennes sur le palier ?
Oui. Non, c'est pas la mienne.
Ah, les vos voisines en face ont les toilettes sur le palier.
Oui.
Vous en avez à l'intérieur ?
Oui.
Bienvenue. C'est pas grave, il peut rester. Hein. On peut pas tous rentrer, c'est ça ? Ça fait beaucoup de monde.
Non, un peu. Allez, c'est... Remplace-les.
Donc c'est ici que vous vivez ?
Oui.
Ça fait combien de mètres carrés ?
Ça fait 27 mètres carrés.
27 mètres carrés, oui. Une chambre pour 5 personnes ?
Oui.
Un couple et 3 enfants ?
Oui. 5 ans ? 8 ans et 10 mois.
Donc là, on est dans le salon, cuisine.
Voilà.
Chambre à coucher.
Chambre à coucher, c'est là.
Hop.
Voilà, c'est la place de Anas, place de Sarah, place de moi avec ma petite parce que sa place, elle est trop, y a trop de bagages. Ouais, la petite.
Elle a mis des affaires dans son berceau.
Oui, parce que j'ai beaucoup des affaires.
Depuis combien de temps vous vivez ici ?
Ça fait 6 ans. Voilà, et à part le... Parce que mon mari, il fait chaque 3 mois, 4 mois, il fait la peinture. Parce que ça devenait trop noir.
Ah, parce qu'il y a de l'humidité ?
Oui, c'est
ça
trop humide. Oui, la moisissure. Mes enfants, ils ont mal à respirer. Je pense que c'est l'humidité, quoi. Mon mari aussi, il a un problème de respiratoire.
Donc ça a été très dur, les confinements, j'imagine.
Oui, c'est trop dur. Regardez comment on vit. Avec les petits, avec les trous de bagages l'un sur l'autre. C'est dangereux, là. Avec les petits, ça peut tomber quelque chose.
Les enfants,
ils n'ont même pas une place pour jouer. Et la petite, elle a même place pour marcher. Elle ne marche pas. Il n'y a pas de place.
Elle a quel âge ?
Vous voyez, elle a 10 mois.
10 mois. Et donc, elle n'a pas encore essayé de faire ses premiers pas parce qu'elle n'a pas de place ?
Non, du tout.
Et pour la classe à la maison, les cours à la maison quand les écoles ont fermé, comment vous avez fait pour les enfants ?
On essaye de faire.
Leurs devoirs sur le lit ?
Même, oui, ou là-bas.
Donc c'est-à-dire que les devoirs, vous les receviez par mail sur votre smartphone ?
Oui.
Ou les devoirs
pour
la grande ?
Oui.
Et elle devait faire ses devoirs comment ?
Oui.
Elle devait les envoyer par téléphone, par mail, sur le téléphone ?
Sur le téléphone, oui.
Est-ce que vous les avez laissés sortir quand même pendant le premier confinement, où c'était totalement interdit ? Est-ce que quand même, à un moment donné, vous avez craqué et vous êtes sorti parce que c'est plus possible de rester à l'intérieur ?
Là, à côté, le cours.
Dans la cour seulement ?
Oui, dans la cour, oui.
Vous n'êtes pas sorti dans la rue ?
Non, parce que c'était interdit.
Et vous n'avez pas eu le Covid ?
Non.
Du coup, ça veut dire que vous avez fait encore plus attention aux gestes barrières, le masque, se laver les mains,
bien sûr,
rester à la maison ?
Oui.
Si une personne attrapait le virus à la maison, tout le monde l'avait en fait, c'est
bien
ça ?
Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas des chambres pour fermer
pour
quelqu'un
s'isoler.
Qui est là, oui.
Vous payez combien de loyer ?
630.
Mmh.
Pour permettre à ses habitants de respirer, de souffler, là encore, beaucoup d'associations se sont mobilisées. On retrouve celle de Nadia dans le quartier Michelet. Elle nous a convié à un barbecue solidaire.
Juste maillot pour la demoiselle.
Alors, nous avons invité à côté des infrastructures sportives de notre quartier, des habitants, des familles, des étudiants. Il y a environ 150 personnes qui viennent bénéficier d'un repas solidaire. On offre le repas et donc les familles, on fait des gâteaux. Donc on partage un repas, on est en plein air. Et donc c'est un moment convivial. Nous, ça nous permet de maintenir le lien avec les familles pendant cette période assez compliquée.
Tu manges pas, Miram. D'accord ?
Un sandwich avec des merguez.
Bonjour, je m'appelle Aïcha.
Vous avez combien d'enfants, Aïcha, qui sont venus avec vous là ?
J'ai 4 enfants. L'aîné a 15 ans, le deuxième il a 10 ans, le troisième il a 7 ans et demi, le dernier il a 4 ans.
C'est le retour à la vie normale, ça fait du bien ?
Oui, franchement, moi, mes enfants, ça fait 2 jours qu'on est invités par rapport à ce barbecue-là. Mes enfants, depuis la matinée, maman, on sort, ils sont pressés de sortir, ils sont trop étouffés à la maison. Là, entre voisins, voisinage et tout ça, on est ensemble là. Mon mari, c'est un plombier chauffagiste, mais lui, il travaille avec les hôtels et les restaurants. Cette période-là, les hôtels et les restaurants, ils sont fermés. Ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de ressources et tout ça, mais alhamdoulilah, Nadia, elle nous a aidés beaucoup. Elle nous appelle, elle envoie des SMS pour récupérer le manger, des trucs, voilà.
La nourriture, ça a manqué ?
On peut faire des petites courses, mais des grandes courses comme avant, c'est vraiment dur.
Vous travaillez, vous ?
Non, je ne travaille pas. Je suis femme de foyer. J'ai 4 enfants. Parce que déjà, le métier, à cette période-là, il n'y a pas de métier. Il n'y a pas de travail.
Les vacances, vous allez en prendre en famille cet été ?
Je ne pense pas. Même nous, on est des Algériens. Pour nous, les billets sont trop chers. On ne peut pas y aller. Mais s'il y a des sorties avec l'association AP, on peut programmer, Inch'Allah.
Donc là aussi, pour les vacances d'été, vous comptez sur l'association ?
Oui, c'est normal. S'il y a des sorties, il y a des sorties à la mer, je pense. Il y a des sorties avec les enfants dans les grands parcs et tout ça. On est là, voilà.
On a 15 kilos de merguez là.
Merguez collector.
Qu'est-ce qu'elles ont de spécial, ces merguez ?
Déjà, vraiment, vraiment bonnes.
C'est des merguez audoniennes. Elles viennent de Saint-Ouen. C'est pas n'importe lesquelles. Hein.
Là, ici, c'est barbecue. C'est vous les experts de la merguez, c'est
ouais,
ça ?
Ouais, c'est bien ça. Bien.
Bon, on essaye. Hein.
Aujourd'hui, Youssef, lui, c'est le maître. C'est lui qui prend le flambeau. Moi, je le laisse un peu. Ah, j'ai suivi un enseignement de quelques années, mais je le laisse quand même.
Et vous appelez comment ?
Fares.
Fares.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Youssef, 19 ans, étudiant à l'université Paris 8.
Fares, j'ai 17 ans et je suis étudiant en terminale.
Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager ?
C'est en fait un ami, il venait là très très souvent, il était à l'association. Et il m'a dit tu peux venir, tout ça. Dès la première fois, on a fait une maraude pour des personnes qui venaient d'autres pays et qui avaient besoin d'aide. On leur a amené des habits, de la nourriture, tout ça. Et c'était vraiment très bien, très incroyable.
Se sentir utile, quoi.
Ouais, se sentir utile à la société, tout ça. Et c'était vraiment bien.
Avant, vous n'aviez pas l'impression d'être utile ?
Si, mais aider des gens, je le fais quasiment jamais. Du coup, le faire comme ça et voir le sourire sur les gens, tout ça, ça a vraiment... Ça m'a fait plaisir et ça m'a enrichi.
Et donc vous avez commencé avec la crise sanitaire, c'est ça qui vous a poussé un peu à vous mobiliser ?
J'ai commencé juste un peu avant la crise sanitaire, mais pendant la crise sanitaire, on a fait minimum une ou deux fois par mois et c'était toujours un plaisir. Aussi, on fait des distributions de colis alimentaires chaque mois, une fois par mois minimum.
Des familles dans le besoin.
Et il y en a de plus en plus, c'est ça, avec la crise ? Vous le sentez ? Vous l'avez vu ?
De plus en plus. Il y a les étudiants... Il y a des familles, mais les étudiants, c'est un nouveau phénomène en fait, parce que voilà, ils ont vraiment besoin en fait, c'est un cas d'urgence. Bon, on en connaît tous, hein, de près ou de loin, des étudiants qui ont forcément besoin du strict minimum en fait.
Juste des kits hygiène, ça leur fait plaisir, c'est utile.
C'est monsieur tout le monde qu'on voit dans la rue, on s'imagine pas forcément qu'il est dans le besoin. Parce qu'on voit le matin en sortant du métro, en partant à l'école ou au travail, on voit des gens, on se doute pas du tout qu'ils sont dans le besoin. En fait, la société aujourd'hui, on va tellement tous vite qu'on n'a même pas le temps de se rendre compte ou même de poser un vrai ça va à quelqu'un en fait.
fait plus attention l'un à l'autre, c'est ça, dans notre société?
C'est ça, encore pire avec le Covid.
Donc cette crise sanitaire, elle a suscité un engagement.
Ouais, ouais, c'est ça. Hein. Et s'il y a un petit mot de la fin, si mes parents m'écoutent, je suis fier d'eux, parce que c'est bien ce qu'ils font depuis des années. Et même les bénévoles, Youssef, Marwan, Zakaria, Hennen, plein d'autres, tout ce qu'ils font, bah on peut que être fier en fait d'eux, parce qu'ils font les choses en fait. Moi je pars du principe où le fait de se plaindre, ça sert à rien. Et que c'est à nous de changer les choses. On agit, on ne fait pas que parler, et c'est ça qui est bien.
Sans les connexions, non, t'étais peut-être pas prêt. Maintenant même le maire connaît le son, je crois qu'il peut le même d'abé. 9-3 c'est l'amour, la paix, 9-3 c'est la haine, la paix. Ça fabrique des mecs à part, ça fabrique des Mbappé.
Covid, la Seine-Saint-Denis, département en première ligne. C'était un reportage d'Agera Mohamed. Prise de son Eric Audra, Stéphane Beaufils et Thomas Robin. Reportage disponible dès maintenant sur franceinter.fr.
Sur le drapeau, hey, hey, boy, chez nous c'est pas comme les autres. Hey, hey, le 9 et le 3 sur le drapeau, hey, hey, boy, chez nous c'est pas comme les autres.
C'était la dernière émission de cette 22e saison d'Interception. Elle était réalisée par Violaine Ballet, qui part exercer son talent ailleurs sur France Inter. Merci infiniment à elle pour ces trois saisons de boulot acharné et tellement enrichissant. Elle était assistée de Martine Messonnier, mixage Philippe Mercher.